toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% Foot. Alors aujourd'hui, évidemment, Patrick est à mes côtés. Évidemment que là, au lieu d'avoir un invité surprise, on a, je dis, une présence importante auprès de nous et qui nous rejoint lors de pour cette émission. Alain est avec nous pour cette émission. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons parler évidemment de foot provençal, en l'occurrence le national avec Aubagne. Bon, les féminines n'ont pas joué cette semaine, on verra ça la semaine prochaine, évidemment de la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille et tout ce qu'il en induit. Voilà. Voilà, on va donc commencer par rapidement parler de la journée de national avec Aubagne. Alain, je t'ai fait un petit coucou avec grand cœur et grand plaisir.
Je tiens à remercier tous les auditeurs de Fréquence Mistral Marseille, ainsi que Patrick et mon ami Franck.
De tout cœur. Voilà. Donc voilà, le Puy en Velay recevait Aubagne vendredi pour la 29e journée. Alors, Aubagne l'emportait Hervel 2-1 face au Puy en Velay. Grâce à Bentoui qui a marqué deux buts à la 45e et 84e minute. Ils étaient menés au score en première période sur un pénalty de Puy-en-Velay. Évidemment que l'équipe s'est bien reprise. Patrick, tu as comme moi évidemment dû voir ce match.
Je ne l'ai pas vu parce que le match il avait défaut d'être vendredi à 19h30.
En effet, les horaires étaient un peu short
pour voir la suite. Et moi j'étais au Vélodrome pour regarder l'OM contre Metz.
Donc je l'ai vu pour toi.
Donc voilà. Donc par contre j'ai vu les buts sur BFM. Ils montrent tous les buts du National. Des jolis buts.
Ah oui.
Et c'est intéressant parce que Aubagne-Herbel est une équipe qui souvent jouait mieux à l'extérieur qu'à domicile. Il faut dire qu'à l'extérieur, il y a des pelouses de bonne qualité.
Il est vrai.
Ça peut être, voilà. Et ils avaient, depuis le début de l'année, ils n'arrivaient plus, ils ne marquaient plus, ils étaient en grosse difficulté.
Depuis janvier, février, on était vraiment en difficulté.
Alors qu'ils ont été menés, comme tu l'as dit. Ils se sont rebellés, ils ont... Alors, attention, ils n'ont pas marché sur le match, dominé, eu 60% de possession, mais ils ont réussi à mettre les ballons au fond, ce qu'il y a encore un mois ou deux, ils n'arrivaient pas.
Voilà. Je les ai trouvés très incisifs, et sur les ballons de transition et de contre, ils ont su tirer leur épingle du jeu.
Voilà, alors que depuis janvier, ils n'y arrivaient plus. Donc, c'est peut-être bon signe. Disons que, en théorie... Tu es quand même, même si on te dit qu'ils sont 11e, mais tu as égalité avec les deux équipes devant, tu as le même nombre de points, c'est le goal average, avec Caen et...
Avec Caen et Villefranche, 33 points,
ces trois points, et voilà. Ce qui fait que normalement, sans catastrophe importante, tu te maintiens, voilà.
Et moi, je voulais savoir, parce que je ne suis pas trop, je vous dis franchement la vérité, au bagne, je n'ai pas le temps, mais je voudrais savoir la différence qu'il y a entre aujourd'hui et hier, l'équipe de l'an dernier, c'est quoi la différence? Est-ce qu'ils ont perdu certains joueurs?
Sur le début de saison, ils avaient fait un bon début de saison cette année, en août et tout, jusqu'à Noël pratiquement.
C'est ça, jusqu'au mois de janvier.
Et avec l'entraîneur qui est parti à fin février, ça se passait bien. Et puis il y a eu un problème, un peu comme l'OM d'ailleurs, avec deux Herbies, jusqu'à la Noël, tu vas bien. Et puis, ça a capoté, on ne sait pas pourquoi. Et depuis que Kassim Abdallah a repris et est devenu entraîneur intérimaire...
Important à souligner, on n'a enregistré aucune défaite depuis...
Depuis qu'il a repris. Un joueur qui est en fin de carrière, mais qui jouait, qui était dans le groupe, qui s'entraînait avec l'équipe. Donc, il connaît mieux les gens. Peut-être c'est une histoire de « on parle, on se connaît et tout ». Est-ce que ça durera? Je ne sais pas, mais ça, je ne suis pas Madame Soleil. Par contre, il fait du bon boulot. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je dis on a le même problème avec l'OM, tu as une équipe qui jouait bien, et puis qui, autour de la trêve de la fin d'année du début janvier, a complètement basculé.
Mais à la différence de l'OM, ils ne vont pas à Marbella.
Non.
Ils pourraient venir à la commanderie, on pourrait les accueillir.
Les moyens sont différents.
Non, mais en plus... au Aubagne-Herbel, j'ai pas pu parce que j'étais au Vélodrome, j'avais un OM Metz, mais donc j'ai pas pu regarder le match. Mais moi, je les regarde en règle générale le vendredi à 19h30 chez nos collègues de BFM. Et ils marquaient plus, quoi. ils avaient, alors qu'en début de saison, ils avaient 3 occasions, ils mettaient 2 buts. Là, sur ce que j'ai vu vendredi dernier, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais ils ont été efficaces. Et là, ils ne marquaient plus. Ils n'arrivaient plus.
Et concrètement, la fin de championnat, le calendrier, est-il favorable au Bagne?
Alors, si je puis me permettre, évidemment, il reste 5 journées dès à présent. Mmh. Et là, on a presque entériné le fait du maintien.
Oui, parce que...
Il manque quelques points par-ci, par-là, oui, mais je crois que c'est fait.
Disons que même si tu prenais plus un seul point sur les 5 matchs, il faudrait que les autres derrière, ceux qui sont Saint-Brieuc, mmh, tout ça et tout, qui sont dans le trou, il faudrait qu'eux, ils en prennent, ils gagnent au moins 3 matchs.
Et ceux qui sont derrière, est-ce qu'Aubagne les rencontre ou pas?
Non.
Alors, prenons la prochaine journée, donc vendredi, celui-ci, à 19h30. Le SCAB recevra Orléans à 19h30 ce vendredi pour la 30e journée. Et derrière ça, il ne restera plus que 4 journées.
Voilà, c'est une équipe plutôt du haut de tableau,
oui,
Orléans.
Au-dessus
mais,
sur le classement.
Ce que soit Sochaux, Dijon, les équipes qui jouent la montée, tu les as déjà jouées.
Ouais.
Donc, tu n'as plus tellement... Et il suffit d'assurer un ou deux matchs nuls, une victoire, un 5 matchs. Et
ils ont les équipes du ventre mou, quoi.
Voilà, ils ont des équipes plutôt du ventre mou. Et donc, et comme la montée est disputée, il y a quand même 4-5 équipes, la descente aussi, les matchs seront très durs.
Oui.
Donc, parce que pour que les équipes marquent des points, il faut que les matchs soient faciles. Or, tu n'en as pas. Quand tu arrives enfin, quand tu as 3 descentes et un barrage... le combat, il est féroce.
En l'occurrence, c'est le même combat sur les différentes divisions.
Ah oui, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, le moindre point, il vaut de l'or. Mm-hmm. Et donc, il n'y a plus de match facile. Donc, normalement, à 33 points, tu devrais... Voilà, il suffit que... Voilà, sur les 5 matchs, tu aies une victoire, un nul, et tu devrais passer, quoi.
Je pense que l'affaire est entendue, on ne va pas discréditer l'actuelle réalité, et évidemment qu'on n'y croit pas. On est presque persuadé que cela est fait.
On a 90%, ton maintien est assuré. Ce qui était l'essentiel. Hein,
laissons tomber les pourcentages qui nous ont coûté en ce qui concerne l'OM.
En Ligue des Champions, on avait 93% de chances de se qualifier. Mais ils n'avaient pas prévu 10 minutes d'arrêt de jeu, un gardien de but qui monte et qui marque un but de la tête.
Ne remue pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît.
Voilà, on va rester sur des notes positives et c'est ce que ça engendre en tout cas. Voilà. Pour les féminines, très très rapidement, étant donné qu'elles sont exemptes, le prochain match se déroulera le mercredi 22 à 18h45, avec la réception de Nantes, un autre calibre, possibilité pour les joueuses de Corinne Diacre de, évidemment, prendre un point par-ci par-là sur les quelques matchs à venir.
Tu parles de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille féminine, la Corinne Diacre.
C'est cela,
Les tensions qu'il y avait, ça s'est calmé un peu?
Les tensions sont relatives dans tous les vestiaires. Je ne crois pas que la médiatisation sur les réseaux sociaux apporte grand-chose.
Les inscriptions qu'on a vues sur les murs.
Oui, mais parce que le problème qu'il y a eu, c'est que c'est un entraîneur. Ils ont renforcé l'équipe en juillet, avant le début de la saison. Ils ont pris encore 3 joueuses au mercato d'hiver. Donc forcément, si tu prends des nouvelles joueuses, en défense, une jeune internationale polonaise, par exemple, 20 ans et tout, tu prends des nouvelles, forcément, ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent leur place.
Par la force des choses.
Donc, il y avait une gardienne, ils avaient pris une gardienne en juillet, elle est partie, elle est à Montpellier maintenant, Et puis, il y a eu une Marseillaise qui a perdu sa place parce que l'entraîneur décide que l'autre, elle est meilleure, elle a fait jouer. Et qui a mal vécu et qui a mal accepté.
Ça a créé quelques tensions.
Voilà, parce qu'elle n'a pas été du match contre Montpellier au Vélodrome, où le rêve des filles, c'est de jouer au Vélodrome devant 40 000 personnes, évidemment. Et donc, ça a entraîné des réactions sur les réseaux sociaux de sa part, où elle a été assez dure. Après, l'entraîneur, elle fait ses choix. Elle ne peut pas mettre 18 personnes sur la pelouse.
C'est son rôle qui est respectable.
Voilà. Et donc, comme tu gueules et que tu la ramènes, elle t'a mis sur le banc. Et il y a eu des tags faits par on ne sait pas qui, mais enfin, bon, on a quand même un peu des doutes de, d'où ça vient.
On peut l'imaginer.
La famille, les proches, machin, qui fait qu'on attaque l'entraîneur, ce qui forcément va t'amener une réaction négative. Parce
et
que
je ne pense pas que ça puisse remettre voilà, en cause la position de cette équipe et son engouement pour
l'avenir. L'équipe devrait se maintenir, ça va, l'ambiance est bonne. Il y a un problème avec une joueuse qui n'a pas accepté d'être remplacée, de ne pas être sur le terrain.
C'est une chose qui peut avoir...
Et quand ça t'arrive, tu as, si tu ne sois pas d'accord, c'est normal, c'est humain. Par contre, tu vas voir l'entraîneur en tête à tête, tu te dis, en plus Corinne Diacre, en tête à tête, il paraît qu'elle n'est pas commode.
Je l'imagine
mais,
bien.
Mais elle l'accepte. Elle avait eu des. Voilà, et les problèmes qu'elle avait en équipe de France, c'est quand elle avait eu des discussions en tête à tête, que la joueuse en face, Wendy Renard, capitaine de l'Olympique lyonnais féminine, pour ne pas la nommer, capitaine de l'équipe de France à un moment, avait balancé sur les réseaux, elle m'a dit ça, elle m'a sorti, elle préfère machin. À partir de là, tu étais capitaine, tu perds le brassard, tu renchéris et tes copines montent, tes équipiers montent au créneau, forcément, tu es en conflit.
Ce n'est pas le moment, justement, de créer la pagaille au sein de.
Et je pense que c'est dommage pour la fille, on ne va pas citer le nom et tout, mais qui a maladroitement parlé, mais ce n'est pas malin. Parce que l'entraîneur, tu vas, tu lui dis en face, tu t'accroches, mais c'est la vie. Des incidents comme ça, il y en a dans toutes les équipes, tous les jours et tout le temps. Un joueur qui n'est pas content de ne pas y être. Mais quand tu le mets sur la place publique, l'entraîneur est obligé, entre guillemets, de sanctionner. Quoi. C'est-à-dire, tu n'es pas content, mais tu es sur le banc, tu ne rentres pas. Voilà. Alors que si tu discutes, elle va te faire peut-être rentrer pour la gestion, pour que... Tu vois, te dire, je t'en veux pas, je te fais rentrer en cours de jeu. Et
féminine
tout.
Ou masculin, peu importe.
Oui,
les
c'est le même principe.
C'est la même
chanson. Tu parlais du vélodrome, elles rejoueront au vélodrome ou
Pas cette saison, elles rejoueront l'année prochaine, pas cette saison. Donc c'est vrai que la joueuse, on la comprend. Tu es une joueuse de l'OM, tu as envie de jouer au vélodrome, dans le stade plein, puisque l'entrée était gratuite, entre guillemets, il fallait réserver la place, ce que moi j'avais fait d'ailleurs. Et voilà, et donc tu y vas, donc c'est vrai que c'est une ambiance, les gens avaient envie. Moi j'avais dit la semaine dernière, l'autre semaine, que je pense que d'ailleurs c'est le stade qui les a paralysés, les filles.
C'est évident.
Parce que pour avoir vu quelques matchs. Des féminines, elles ont été moins bonnes que d'habitude parce qu'elles avaient jouer au vélodrome devant ton public, c'est impressionnant.
Au-delà du scénario du début de ce match dont on parlait la semaine passée, se prendre un but au bout de 40 secondes, ça n'a pas arrangé justement les choses.
Donc là, ils vont jouer contre Nantes.
Oui, Nantes, c'est une équipe de haut tableau. C'est une grande. Il y a les deux Parisiens, PFC et PSG. Il y a Lyon qui est hors sol, qui est un peu l'équivalent du PSG chez les hommes. Il y a Nantes et il y a Fleury qui sont les grosses équipes.
Ce sont les équipes,
évidemment. Voilà, c'est les cinq équipes de tête. Voilà. Donc, ça va être un match compliqué, mais un match nul à la maison, ce ne serait pas un mauvais résultat.
Ce serait plus que souhaitable.
Après,
maintenant, il nous reste Lens à jouer.
Lens, c'est jouable.
Lens, c'est une équipe qui est derrière, qui est le bas de tableau.
Ils finissent contre Montpellier.
Montpellier.
C'est
ça. Ça devrait aller. Allez, les filles de l'OM.
Allez.
Voilà. Ça, c'est Montpellier. Bon, on les a joués. Bon, pour les filles, voilà, je voulais faire une petite parenthèse inhabituelle sur la Nationale 3, en parlant de l'OM, évidemment, qui a fait son petit Olympico ce week-end. Oui. L'OM a donc reçu en Nationale 3 l'Olympique lyonnais, et l'a remporté 2-1. Voilà. Bon, ça ne remet pas en cause totalement l'accession de Nationale 3 à Nationale 2 pour l'OM, qui est quatrième à 4 points. Point de la première place occupé par Lyon, Duchère. Oui, donc sa montée n'est pas hors de portée totalement, il est encore possible d'accéder à une division supérieure.
Après
notre réserve.
Après, voilà, on parle de la réserve, et le problème de la réserve, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, des fois, l'équipe est très irrégulière dans sa composition.
En effet.
C'est-à-dire que souvent, il y a des garçons qui sont à U19, qui jouent la Youth League, les U19. Il y a aussi une espèce de championnat des réserves. Et donc, tu as des équipes qui tournent, que des fois aussi, tu as des sélections U17, U18, U19, où tu as 2-3 gars qui partent en sélection. Et donc, l'équipe, c'est pas souvent la même composition. Ce qui fait que tu as un problème à stabiliser par rapport à des équipes. Tu disais Lyon-la-Duchère, qui n'est pas l'Olympique lyonnais, hein, oui, qui est un club de la banlieue lyonnais. C'est une équipe structurée, toujours les mêmes, une équipe type. Voilà.
Qui n'est pas sujette à ce genre de
et donc,
de détagrément.
C'est sûr que nous, par exemple, on a des fois des problèmes avec des jeunes de 17-18 ans qui jouent. Alors, ils apprennent. Hein. C'est le but de la réserve, c'est de former les futurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, tu lâches des poèmes par manque d'expérience, par manque de métier, par des erreurs de jeunesse. Et bon, mais c'est vrai que la montée serait intéressante parce que le National 2, c'est quand même un championnat beaucoup plus difficile.
Absolument.
Mais c'est compliqué parce que tu as beaucoup d'équipes amateurs pures avec des gars qui ont joué, on le voit en Coupe de France, des mecs qui ont fait des... qui ont été stagiaires pro, apprentis, même certains avaient signé pro, mais n'ont pas percé. Et tu as des sacrément bons joueurs. Et le niveau, il est élevé. Quoi. Le niveau, il est élevé. Ça pourrait être intéressant de monter, mais oui, on
reste
verra.
Dans cette optique positive, voilà, une fois de plus. Alors, avant d'attaquer, évidemment, la Ligue 1,
j'ai vu qu'il y a l'équipe de Fos aussi.
Oui, qui est bien placé.
Oui, qui est bien placé aussi.
Qui est en position, évidemment, très intéressante sur leur championnat, ouais, pour une accession. Ouais.
Et un petit coucou à mon ami, à mon cousin, pardon, qui est supporter d'Alès.
Ouais. Voilà. Voilà. Cousin et ami, voilà, tout à fait.
Mais disons que voilà, donc, pour la réserve, ça pourrait être intéressant de monter en National 2, sachant qu'il sera difficile, parce qu'on se rend compte, puisque... on a joué donc l'Olympique lyonnais, la réserve de Lyon, est en National 3 aussi, et il n'y a pratiquement plus de réserve de Ligue 1 en National 2, parce que le championnat est d'un très haut niveau, et la plupart, Monaco, Nice et les équipes sont en National 3.
Important à notifier ce que tu dis.
Voilà,
là.
C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'équipes de Ligue 1 qui est en National 2, parce que le championnat est compliqué, quoi.
Donc
difficile.
Ce travail en amont, évidemment, doit se poursuivre en ce qui nous concerne chez les jeunes. Ouais. On peut le dire ainsi sur une équipe réserve.
On peut terminer pour souhaiter bonne chance à la réserve de l'Olympique de Marseille, ainsi qu'à Fos. Parce que,
féliciter Romain Ferrier et tout, ils font du bon boulot, parce que le but, c'est quand même de... ce qui est le rêve des supporters de l'OM, d'avoir, quand tu regardes ton banc de touche, 5-6 gars qui viennent de la formation.
Oui.
Parce que ça coûte moins cher déjà plutôt que d'acheter.
C'est la finalité que nous attendons.
Voilà. Et puis, c'est des jeunes qui ont... Et le public, tu le vois, parce que le public, il est sympa quand il y a des gamins.
Et surtout qu'ils restent à l'Olympique de Marseille.
Voilà, qu'ils restent, oui. Après, ça, c'est...
petite touche d'humour.
Oui, petite touche d'humour, mais après, là, on irait très loin dans les histoires d'agents et autres.
Ouais, tu peux siffloter une chanson, ça me va et ça revient.
Ouais,
comme les tout petits rien. Mais il faut y croire tout de même.
Voilà.
Sur la progression constante des différentes équipes qui forment justement notre club. Voilà. Alors, avant d'attaquer la Ligue 1 et la 29e journée, on va peut-être non pas parler de politique économique, mais de changement au niveau de l'organigramme, officialisé très récemment. Donc, voilà, nous avons un nouveau président qui n'est pas intérimaire pour l'instant. Espérons le conserver, qui est nouveau.
Ouais.
Alors, juste un petit mot sur Stéphane Richard, qui est passé par les cabinets ministériels et PDG du groupe Orange pendant plus de 10 ans. Bon, ben, il compte, paraît-il, quelques attaches à Marseille. Et donc, il est officiellement proclamé président de l'Olympique de Marseille.
Voilà, donc il a été recruté. Alors, c'est quand même une pointure, puisque quand tu es chef de cabinet du ministre de l'Économie, alors en plus... c'était Borloo, puis après il a été chef de cabinet de Christine Lagarde, qui, d'après les informations mais sérieuses, de journaux économiques patronaux, avait voulu le faire venir au Fonds monétaire international quand elle était présidente du FMI. Donc je veux dire...
question finance et gestion, ici en temps.
Voilà, et il a été pendant une dizaine d'années le directeur général d'Orange, l'ancien France Télécom pour les plus anciens. L'entreprise de téléphonie. Et il avait été, moi je m'en rappelle, puisque bon, voilà, moi je travaillais à la poste, donc c'était les cousins Germain. Mmh. Il avait été pris et choisi quand il y a eu une vague de, si les gens se rappellent, c'est vieux, il y a 20 ans, une vague de suicides à France Télécom quand il y a eu, oui. Et à Orange, quand c'est privatisé, c'est devenu Orange.
Ça devient une triste
il y avait
souvenir.
Eu voilà, des pressions managériales sur le rendement et tout, il y a eu plusieurs suicides. Et donc, c'est lui qui avait été choisi pour sa capacité à gérer les situations de crise. Et des infos qu'on a pu avoir, mais moi, j'en ai eu perso, mais on en a eu dans la presse économique, dans les journaux, y compris Libération, Le Monde, dans les journaux plutôt de gauche.
Voilà. Nous ne sommes pas justement à ces idées suicidaires, mais évidemment, la répression.
Il a été un président qui a bien géré, qui a calmé, qui a négocié, qui a discuté, qui a cherché des solutions, parce que c'est vrai que l'entreprise, c'était compliqué. Donc, il est spécialisé et connu dans la gestion des crises, dans la négociation, et c'est un gestionnaire. Il a fait HEC, il a fait l'ENA. Bon, voilà, il est sorti diplômé. Donc, c'est du costaud.
La parenthèse importantissime, oui. Je dirais, c'est quand même ses liens avec le football. Ils oui. sont quand même
et
assez loin.
Et avec Marseille. Il a quand même des liens avec Marseille parce qu'il a, il oui. a fait ses études en partie à Marseille, oui, oui. à Aix-en-Provence. Et il y vit. C'était marqué dans les journaux, mais c'est vrai. C'est la seule ville où il a un appartement à son nom qui lui appartient.
J'entends complètement.
Même s'il est travaillant à Paris... Il est en location, mais le seul truc d'où il est proprio, c'est Marseille. Il a toujours vécu, toujours eu des liens. Et c'est lui qui avait négocié avec l'OM le naming du stade Vélodrome. Qui s'appelle
justement,
Orange
on va revenir
Vélodrome.
À cela. Quelle est l'idée et la décision qui va être prise sur le stade Vélodrome? Alors, va-t-il retrouver son nom originel?
Alors, nom originel, non, parce que le naming, c'est quand même quelques dizaines de millions d'euros.
Oui.
Et donc, c'est des contrats de 10 ans. Orange, c'était 10 ans. Mm-hmm. Donc, tu t'appelles Orange Vélodrome et tu prends 10-15 millions par an. Donc, tu ne vas pas cracher dessus. Il semblerait qu'Orange, on ne prolonge pas et qu'on devienne un CMA-CGM. C'est l'entreprise de Jacques Saadé qui
D'accord.
est à Marseille, siège social à Marseille, l'armateur, qui est le patron de la Provence d'ailleurs, et qui est le sponsor maillot du club. Et il se pourrait, c'est ce qui se murmure.
C'est ce qui est d'actualité.
Voilà, c'est l'actualité, c'est que ça soit eux qui reprennent le naming du stade. Qui est un moyen de te mettre de l'argent dans le club, parce que c'est un contrat de 10 ans. Hein,
on Il faut parle, comprendre voilà. la finalité de cette
voilà,
action.
Voilà. Donc, ça serait une bonne chose, sachant ce qu'il faut dire honnêtement à nos auditeurs, Saadé, qui habite Marseille, oui. qui est son entreprise, est marseillaise. Siège social, c'est à la tour la Marseillaise, à la Joliette.
Nous la connaissons quelque peu.
Voilà, le mec, il n'a pas trop envie d'avoir des manifs de supporters qui disent « mets les sous, achète un joueur ». Tous les deux, trois fois par semaine pendant les périodes de mercato.
Comprendre son recul, son retrait en ce qui concerne la présidence personnelle.
Donc il ne veut pas être le patron. Voilà.
Et j'ai entendu dire que Bernard Tapie, ce n'était pas son modèle.
À Richard, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a
Dans
fait
quel
une,
sens,
une interview. Alors, pour avoir, parce que demain, je suis allé sur Internet regarder l'interview, il était interviewé par Fogel, Marc-Olivier Fogel, sur une radio périphérique. Et donc, en fait, il a dit on va travailler à la transparence, parce que c'est vrai que Bernard, moi, je l'apprécie, parce que c'est l'homme de Munich, de la Ligue des Champions. Mmh. Mais c'est vrai aussi que c'est l'homme de la rétrogradation pour sanctions et de procès et de machin.
Oui, comme un modèle de transparence,
voilà.
on peut trouver...
Donc, voilà. Donc lui, ce qu'il a voulu dire par rapport à... Parce que il était, quand tu prends la question de départ, c'est Marseille, c'est difficile, c'est compliqué, les magouilles, machin... C'est juste si le mec, il n'a pas cité la DZ de mafia et compagnie. Donc il a dit, je ne serai pas un président qui fera des affaires. Et d'ailleurs, il a très clairement expliqué que son principal boulot Bon, officiellement, il rentre en fonction le 2 juillet. Oui. C'est pour qu'il soit pas sur la saison actuelle. Hein, voilà, ouais. Pour qu'il soit sur la prochaine. Mais c'est lui qui va recruter le nouveau directeur sportif qui remplace Benatia.
La question est cruciale.
Oui, oui, oui.
Il s'agit de cela, car bien évidemment, il est bien question que Benatia nous quitte
sûr,
à la fin de la saison. C'est acté.
Lui, il a dit, ça a été confirmé par Marc Courte. Et on rappelle que... Alors, c'est une version officielle, mais c'est proche de la vérité, qu'il voulait partir, qu'il avait mis sa démission dans la balance, et que, bon, ça a fait un peu jaser, parce qu'en même temps qu'il mettait sa démission, il discutait pour faire venir Abby Bey comme entraîneur, quand De Zerbi est parti.
Tout c'est une brique, Patrick.
Oui, mais il voulait partir, donc il s'en va, c'est sûr, 31 mai, il est parti.
Moi, je veux revenir un peu sur le relationnel avec Bernard Tapie, mais il a été impliqué dans l'affaire du Crédit Lyonnais.
Oui, mais c'est-à-dire...
Il a été condamné.
Il était chef de cabinet de Christine Lagarde quand ils ont traité l'affaire du Crédit Lyonnais Bernard Tapie. Et il a été condamné pour manque de vigilance. Mmh. Il a pris 3 mois avec sursis.
On parle de complicité, détournement de fonds.
Voilà, c'est-à-dire en fait, dans la réalité, le gouvernement ne voulait pas faire d'histoire. Lagarde, elle a dit à son chef de cabinet, « Bon, on met ça sous le tapis, enfin, on s'arrange, c'est le cas de le dire. Ouais. » Et lui, c'était le chef de cabinet... C'est un peu comme Juppé avec Chirac sur les emplois fictifs de la mairie de Paris.
Bon, que sa peine a été diminuée de
6 mois. Oui, de 6 mois, de 6 mois, 3 mois.
Je lui souhaite bonne chance.
Parce qu'il était en fait, c'est d'ailleurs pour ça que Fogiel lui dit, il avait interrogé dessus, il était chef de cabinet du ministre des Finances, donc c'est lui qui a traité un dossier, on l'a accusé, il a été condamné. Pour manque de vigilance, ne pas avoir été assez sévère. Voilà.
Eh bien, on lui demande d'être vigilant avec l'Olympique de Marseille et d'aller de l'avant.
Mais façon,
c'est exactement le but. Voilà. Donc, question de gestion financière, évidemment, c'est ses capacités qu'il va falloir mettre en exergue. Mmh. Maintenant, pour l'épauler dans l'organigramme, évidemment, on va parler football.
Oui.
Il va lui falloir un directeur sportif, évidemment, dans la fonction telle.
Et un entraîneur, peut-être.
Et un entraîneur qui, évidemment, l'accompagnera. Ils doivent travailler en collaboration, ce qui n'est pas forcément le cas après.
Selon le contrat que j'ai entrevu sur la presse, Abid Bey devait gagner la Coupe de France et être qualifié en
Ligue des Champions directement, donc, c'est en 3e.
Déjà, bon, il y a 50% qui sont
voilà. Mais après, pour revenir donc à Stéphane Richard, il l'a dit, son premier truc sera de trouver le nouveau directeur sportif, puisque donc Benatia s'en va, parce que Benatia, bon... Je sais qu'il y a des supporters qui l'aiment bien, mais moi je parlais au stade vendredi, puisque c'était après la conférence de presse de Macour, dont tout le monde parlait du nouveau président, et tout le monde dit la même chose, je m'en fous du président, après tu veux pas non plus un peintre, hein, mais bon, quelqu'un qui gère, d'accord, mais moi ce que je veux c'est l'équipe, quel directeur sportif, quel entraîneur.
Ce qui nous intéresse avant tout, c'est le terrain.
Voilà, c'est le terrain.
Parce que,
donc, c'est là-dessus qu'il sera jugé, Richard.
C'est cela, parce que Richard doit être épaulé. Alors, nous avons évidemment, dans l'organigramme de l'OM, évidemment, déjà, Federico Valdaretti, c'est cela, qui travaille chez nous, qui a, je dirais, à l'image de Longoria, entre guillemets, qui a pas mal de joueurs, qui connaît, qui suit le football et qui a pas mal de...
Qui était directeur sportif dans les équipes italiennes, que Longoria connaît de là, de la Roma, il avait travaillé pour la Juve et tout. Et donc, c'est...
Mais qui est, en l'occurrence, directeur sportif adjoint pour l'instant. Pourrait-il prendre la place de Benatia ?
Benatia partant, qui va venir, ça va être essentiel, parce que tu vas avoir, même si on dit qu'il faut arrêter de changer la moitié de l'équipe tous les ans, cette année, de fait, tu vas être obligé. Parce que tu as des prêts qui ne sont pas, on va un peu dire les choses telles qu'elles sont. C'est sûr que Pavard, tu ne vas pas mettre 15 millions, c'est l'option d'achat. Tu ne vas pas le garder parce qu'il est à la rue. Vermeeren, 21 millions, l'option d'achat au Red Bull Leipzig. Tu ne vas pas la faire jouer parce que... Même si moi je suis persuadé que ce gamin a des qualités, qu'il aurait pu être un très bon
indéniable
joueur, mais il est trop irrégulier, il est trop voilà. Noaneri, tu sais qu'il repart à Arsenal, c'est sûr. Et voilà. Et donc à la limite,
il s'agit de gestion financière, Patrick, et c'est son rôle.
Voilà, ça va être son rôle. Donc ceux-là, ils vont devoir partir. Tu as des joueurs qui veulent partir, donc on va. On va parler de Leonardo Balerdi.
C'est donc, d'actualité.
Ça fait 6 ans qu'il est là. Il serait temps que peut-être il aille voir ailleurs. Il semblerait que lui, d'ailleurs, ait envie de partir
qu'il y
aussi.
Il y a un commun accord qui se profile.
Voilà. Højbjerg aussi, on dit qu'il souhaiterait partir en Italie. Voilà.
Le sujet brûlant, c'est... Parlons concrètement.
Greenwood. Alors Greenwood, c'est, à mon avis, si je peux me permettre, Alain, c'est pas pareil. Greenwood, tu aimerais le garder.
Eh oui.
Parce que, bon, reparlons football. Vendredi soir, tu vois le match contre Metz. Tu as un joueur qui a une classe internationale, c'est Greenwood. C'est
tout en étant diminué,
voilà.
C'est le joueur...
Tout en étant diminué, en revenant de blessure, en n'étant pas à 100%, c'est toutes les balles. Tu as 2 passes décisives pour lui. Tu en as 2 autres... qui aurait dû être décisive, mais malheureusement, Gouiri n'était pas en canne et il les a mis au-dessus.
Ouais.
Mais c'est le joueur de classe.
Mais voilà. Après, ça va s'orienter sur la qualification ou pas.
En Ligue des Champions.
Alors, 4e place ou 5e place ou 3e.
Voilà. Alors, on rappelle à nos auditeurs que les 3 premiers sont qualifiés d'office. Le 4e joue 2 matchs de barrage.
Ouais,
un barrage et un tour préliminaire.
C'est jouable quand même.
C'est jouable, sauf que sur les 5 dernières saisons, 4 fois, les clubs français sont fait éliminer.
Oui, mais Lille a montré l'exemple quand même.
Lille l'a fait une fois. Après, tu as un truc. Et l'OM en avait tiré. D'ailleurs, je me rappelle, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie. On avait tiré le Panathinaikos Athènes. Tout le monde, ouais, c'est bon, Panathinaikos, ça va, on va se les taper. Ouais. On s'est fait éliminer. Voilà.
Alors, il y a plein de paramètres importants, puisque tu es sur ce thème. Évidemment que cette 4e place, qu'engendrerait-elle, justement, une anticipation au niveau des joueurs, mais acheter des joueurs ou recruter des joueurs qui...
Sans savoir si tu vas être en Ligue
évidemment.
Des Champions ou pas, voilà. Parce que...
Au-delà des vacances écourtées.
Voilà, la Ligue des Champions, les tours préliminaires, c'est... fin juillet, mais les clubs français, tu joues début août.
Il ne faut pas oublier aussi que c'est une année Coupe du Monde. Là.
Oui, tu as la Coupe du Monde,
d'autant
donc
plus.
Tu reprends, tu es en retard. Voilà. Donc tu as beaucoup de joueurs qui sont à la Coupe du Monde. Tu reprends et tu joues début août, le 3 août, le 2, 3, 4 août, tu vas jouer des matchs de barrage.
Alors pardonnez-moi, autrement dit, il n'y a que la 3e place, justement,
voilà.
Que l'on doit...
Qui t'assure la qualif. La 4e, tu passes le premier tour... Tu fais comme l'a fait Monaco l'année dernière. Mm-hmm. Ils passent une fois, ils arrivent au second tour, ils se prennent Benfica-Lisbonne. Ouais. C'est du costaud, Benfica. Mm-hmm. Se font éliminer. Et si tu as recruté sur la Ligue des Champions, tu as promis la Ligue des Champions, tu ne l'as pas, les joueurs ils tirent la gueule. Financièrement, c'est 3 ou 4 fois plus d'argent que l'Europa League, parce que tu es qualifié en Europa League, hein, si tu es quatrième. Mais tu ne peux pas construire un mercato et tu ne peux pas, un joueur comme Greenwood, comme disait Alain, il veut rester en Ligue des Champions. Si tu n'y es pas, il va vouloir partir.
Bon, sportivement, c'est un joueur essentiel à notre équipe, mais il est évident qu'on ne va pas évidemment le conserver
par rapport à tout un tas de paramètres. Voilà,
évidemment.
Voilà. Bon. Et sachant qu'en plus... C'est une question de 40-50 millions d'euros de recettes. Mmh. Là, cette année, on était en Ligue des Champions. On a été éliminé. On est tombé 25e. Il y a 24 qualifiés. Très bien. Mmh. On ne va pas revenir sur l'histoire, le but du gardien de Benfica dans les arrêts de jeu.
Voilà,
on ne va pas retourner le couteau dans la plaie. Mais tu es éliminé. Tu as quand même touché 50 millions.
Alors, revenons-en peut-être aux paramètres de la DNCG qui a donné ces chiffres, qui sont contestés par notre président Franck Macourt, financier.
Ils ne sont pas contestés. Il parle de 105 millions l'année dernière, parce qu'il s'agit des comptes 2004-2005, où tu ne jouais pas de Coupe d'Europe.
Oui.
Mais tu as joué la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions cette année. Et tu as pris une 50 millions d'euros de primes.
Ça va rééquilibrer justement ces comptes.
Ça diminue la perte.
Ouais.
C'est Macourt qui va faire comme tous les ans.
Et rajouter de l'argent.
Voilà.
Macourt parle d'un partenariat, je crois.
Il cherche un partenaire. Parce que
il ne peut pas être partenaire de l'Olympique de Marseille.
Ben déjà, dans une certaine mesure.
Je veux dire, il est là, il est
alors,
à Joliette.
Pour revenir à ce que dit Alain, Saadé, il ne veut pas... être président du club parce qu'il veut pas, il est marseillais, il habite là.
Il y a beaucoup de choses qui disent qu'à Marseille, la Juliette prendrait feu.
C'est compliqué,
aussi,
voilà.
Par contre,
il est déjà sponsor maillot. Il se dit que c'est eux qui prendraient le naming du stade, donc de l'argent, et il pourrait rentrer un actionnaire minoritaire, donc pas de pouvoir, c'est pas toi le patron, mais qui est un moyen d'aider.
Profile, hein.
Sauf que Saadé, il tient à ce que il soit pas trop, parce qu'il veut pas de... C'est un patron d'entreprise, il a pas envie que...
Ben
voilà,
oui, surtout
hein,
avec l'activité. Voilà. Et voilà. Il est pas trop aidé en ce moment. Hein.
Voilà, en ce moment, en plus, il avait la guerre dans le Golfe.
Je parlerai du détroit d'Ormuz.
Voilà, moi. Lui, il est comme tous les armateurs en galère.
Bon, refermons cette parenthèse,
voilà.
Mais
donc,
plus
voilà.
que cela.
Donc, si, quand McCourt parle de trouver un actionnaire minoritaire, c'est quelqu'un qui amènerait 200 millions, qui achète, tu crées des actions... Et cet argent te permet de combler une partie des dettes, mais te permet aussi d'avoir ce qu'il avait fait quand il est arrivé. Tu mets une centaine de millions pour le mercato.
Je pense que sous l'égide de Stéphane Richard, ça pourrait justement se concrétiser avec différents partenaires.
D'où le fait, parce que c'est vrai que même moi, j'aimais bien à titre humain, personnel, Longoria. Je trouve que c'était un très bon scout. Un très bon recruteur.
C'est ce qui va nous manquer, ça. Le scoutisme, c'est la meilleure chose pour recruter des joueurs.
Mais un président, dans les instances, ça ferme sa gueule, ça fait attention à ce que ça dit, ça dérape pas à Auxerre en parlant de championnat corrompu, parce que tu le payes très
chèrement.
Voilà,
ces erreurs fatales.
Voilà.
Mais il a explosé.
Il a explosé.
Mais est-ce qu'on l'a pas aidé à exploser aussi?
Oui, hein, mais après, à un moment donné, un président de qualité... je pense que quand il a parlé de tapis, Stéphane Richard, c'est aussi un peu ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire, je rappelle à nos auditeurs, il y a un match de coupe OM Lille, qu'on perd au tir au but, où on conteste, on demande un pénalty, qui, vu les images, y était, mais en Coupe de France, il n'y a pas la VAR avant les quarts de finale, donc il n'y avait pas de VAR. Et il y a une engueulade sur le bord de touche avec le quatrième arbitre. Qui s'engueule avec, qui a un problème, un conflit avec le président de Lille, l'État, qui sera d'ailleurs suspendu.
Comme à l'accoutumée.
Voilà, comme à l'accoutumée, c'est un pro. Et Benatia, il arrive après, parce qu'il vient voir que le président, il est sur le banc de touche, il n'arrête pas de brancher le quatrième arbitre. Ouais. Donc, il s'engueule. Il vient aussi, il y a engueulade. Il y a un témoignage du quatrième arbitre, qui demande d'ailleurs à Turpin, qui arbitrait le match, qui lui est sur le terrain, lui, il appelle, il lui dit, viens mettre un rouge, viens expulser Benatia. Donc l'autre, il vient, il expulse, hein, il m'a insulté, machin. Et quand tu regardes les enregistrements à la télé, c'était France Télévisions, tu n'entends pas d'insultes, et je trouve même, moi, pour avoir vu... Alors, les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas... Voilà. Je trouve que les temps étaient plus agressifs. Ça a été le premier. Et donc, il y a eu un conflit avec le quatrième arbitre qui a été accusé d'avoir menti par l'avocat de l'OM, puisque Benatia, il a pris 6 mois, dont 3 mois ferme. Voilà. Pour son dérapage à Auxerre, Longoria, il avait pris 6 mois aussi. Voilà. Et l'État, il a pris qu'un mois, alors que c'est lui qui avait commencé.
Ça, on peut
donc,
le souligner.
Il y a un contentieux grave. Donc, il y a une condamnation de Benatia instance disciplinaire de 6 mois, dont 3 mois ferme, de suspension de terrain, de ban, de tout. Et il y a un appel, l'OM fait appel. Et la fédération ne trouve rien de mieux que de désigner cet arbitre, le quatrième arbitre, de le désigner pour être l'arbitre central de l'OM Auxerre, 8 jours avant le... Six, même pas 5 jours, parce que l'appel c'était le mercredi. Et le match était le samedi.
Bon, maintenant, nous sommes dans l'actualité, Patrick.
L'OM avait demandé qu'on change d'arbitre. Ils n'ont pas voulu. Ça a fait un clash. Et je pense que Longoria, il a pété un câble. Sauf qu'un président, j'espère que Stéphane Richard, il a l'expérience. Quand tu as été chef de cabinet et ministre des Finances, tu sais qu'il ne faut pas
tu enlèves les propos.
Voilà. Pour pas déraper comme ça et partir dans le vestiaire où tous les journalistes tannent le micro pour que tu dises le championnat est corrompu. Voilà.
Oui, mais il faudra qu'au moins ils disent les choses quand même.
Oui, mais il y a la manière de les dire, il y a les lieux pour le dire. Voilà. Et on parlait du président de Lille, il en fait des belles. Mais lui, il est soutenu par Nasser, hein, le PSG. Voilà. C'est eux qui l'ont mis responsable des présidents de Ligue 1. La Ligue, c'est le responsable des présidents de Ligue 1. Et donc, si tu veux, Longoria, il s'était fait avoir. Il avait craqué, il avait disjoncté. tu attends d'un président qu'il ait un peu plus de recul, un peu plus de calme.
Puis après, il y aura la vérité du terrain.
Voilà, après, tu peux avoir l'entraîneur qui, en conférence de presse d'après-match, dit machin.
Hein, Patrick, voilà. Si ça joue bien sur la pelouse, on ne parle pas de tout
On dirait avant la vérité du terrain. Les imprudences d'un président.
Mais pour Richard, c'est ce qui met une belle équipe, que ça tourne.
Voilà, mais parce que le fameux match à Auxerre, où à la fin du match, donc dans les travées, dans les couloirs du stade de la Baie des Champs à Auxerre, il avait disjoncté, il avait critiqué le championnat, corruption, les arbitres vendus, machin.
C'est allé loin, là, quand même.
Voilà, c'est allé très loin.
Donc le football doit passer avant.
Moi, le match, je l'avais vu.
Tu avais été mauvais.
Voilà, l'arbitre, c'était scandaleux de le mettre lui parce qu'il passait en appel. On allait le traiter le menteur une semaine après. Mais quand moi, j'ai vu le match, tu as perdu, mais tu n'as pas été bon. Voilà.
Le terrain.
Alors après, le problème, il a mis en rouge.
Le président doit être raisonnable et raisonné. Voilà,
mais d'abord, le terrain. Après, tu as raison, Franck. Voilà.
Puisque tu me dis, évidemment, que ces choses-là, c'est vrai, doivent être dites.
Le terrain, ça doit être la priorité pour tout le monde.
C'est la base de tout.
C'est un peu la discussion qu'on avait l'autre fois sur l'histoire du nouveau logo. Le logo, il dépend de tes résultats. Je suis attaché au logo de 93 parce qu'on a gagné la Ligue des Champions.
Pareillement.
Maillot. Il n'était pas plus beau que celui de 2004.
Je vais me répéter. Le logo, c'est le logo. Le terrain, c'est le terrain. Voilà, et moi, je préfère le terrain au logo.
Si tu as une équipe qui joue bien et qui gagne, tu t'en fous.
Ben justement, si on parle football, car il reste une petite vingtaine de minutes pour notre émission, évidemment. Donc, très rapidement, je vais résumer la 29e journée que vous avez suivie, évidemment. Avec plus ou moins de plaisir. Alors, pareil, par le Paris FC qui a battu 4-1 Monaco.
Étonnant.
Ils ont mis 3 buts à un quart d'heure.
Tout simplement. Étonnant.
J'aurais parié sur une victoire du Paris Football Club. Je suis tombé. Mais bon.
Évidemment. Et nous avons suivi, évidemment, l'OM à la remporter 3-1 face au FC Metz, le dernier de ce championnat. Et pour toujours. Auxerre 0-0 face à Nantes, Rennes 2-1 face à Angers, Nice match nul 1 partout face au Havre, difficile pour le Havre mais bien content pour eux. Toulouse a perdu à domicile face à Lille 4-0, cela ne nous arrange guère au niveau du classement. Pareillement pour Lyon qui a battu Lorient 2-0.
Lille, on me dit, ils n'ont pas d'attaque, ils en mettent 4 à Toulouse. C'est étonnant. Après, je reviens sur le match d'Angers, il y a un pénalty qui est loupé, je crois.
Qui a arrêté.
Après, on va pas polémiquer.
Non, mais le pénalty, il est pas bien tiré, le gardien l'arrête.
Voilà. Il est vrai, ouais.
Après, nous, contre Metz, on peut en parler.
On va le faire. Alors, parlons de l'ANC PSG ainsi que Brest et Strasbourg qui se disputeront le 13 mai. On sait pour quelle raison, évidemment. Voilà. En ce qui nous concerne, si on peut parler de ce match, évidemment, de l'OMMS, en l'occurrence, que nous avons tous vu. Patrick, Alain, vos commentaires.
Que dire ? Si tu es bien, tu leur mets 6-0, tranquille, et on n'en parle plus.
Là, je suis d'accord avec toi, Patrick. Voilà. Il y a 4-0 à la mi-temps, facile.
Normalement, 3-4 à la mi-temps, parce que tu as des ballons. Alors après, attention, le gardien de Metz, c'est un jeune Sénégalais.
De 2,06 m.
Ouais, très grand, et qui a fait 3 ou 4 parades monstrueuses. Et pour un mec très grand...
Pas évident de faire ces parades-là.
Ouais. Voilà, il sort une frappe de Greenwood à ras de terre, au ras
du
poteau.
Il se couche rapidement, c'est étonnant.
C'est pour un type aussi grand, c'est surprenant. Et il a été très bon.
Bravo.
Les buts, il peut rien. Mais toi, et Gouiri, il en rate deux. Enfin, bon, bref.
On aurait pu faire la différence. On aurait dû gagner en première période.
C'est incroyable qu'au 16 mètres, on tape des 3 points comme au rugby. Voilà, ça me sort des yeux en tant que joueur professionnel pas au moins cadrer.
En première mi-temps, l'action de Gouiri, le centre en retrait, c'est une action entre Aubameyang et Greenwood. La passe, il n'y a pas un défenseur, il est seul. Le but, il est grand ouvert. Et je sais pas, il apprend, je pense, d'une mauvaise surface.
Ça pouvait partir au virage sud, comme au parc Chano de l'autre côté.
Il la met au-dessus. Alors que, bon, tu dois quand même, à ce niveau-là, en plus, Guiri, techniquement, c'est un superbe joueur. Mmh. Tu dois la mettre dedans. Tu dois mener 3-0 à la mi-temps, tu mènes qu'un 0. Mmh. Tu mets le deuxième en début de seconde mi-temps. Et c'est d'ailleurs surprenant parce que tu marques, tes deux buts que tu marques sont sur des contres. C'est-à-dire oui. que les deux fois...
Je ne sais pas si on peut parler de contre. Moi, je dirais plutôt phase de transition qui n'était oui, pas véritablement des contres.
Le second, c'est sur un corner pour Metz. Ouais. Tu dégages de la tête. C'est pas
ça,
là.
Ouais, qu'on récupère.
Sur ouais. Greenwood à 30 mètres. Mmh. Greenwood, Imond, il est face. Il fait venir. Il attire le défenseur. Wow. Il sert Peck Chao qui mmh. fait un appel entre deux, qui se retrouve seul face au goal et qui le lobe.
Oui.
Voilà. Donc, c'est quand même une contre-attaque.
Très belle action.
Et tu domines, tu as le ballon, tu prends un but bidon où le mec se promène dans la surface, il y a quatre mecs, il n'y en a pas une qui l'attaque. Mmh. Il tire entre les jambes du goal qui la laisse passer.
Qui n'est pas exempt de tout reproche sur cette action-là.
Qui est faible.
Là, ils ont quand même un peu de qualité, quand même. Moi, je m'attendais à avoir une équipe plus...
Ah non, mais tu as
plus défensif.
Alors,
plus,
ce qui m'a fait plaisir, et les copains, pareil, c'est que Bounassar, qui a signé, parce qu'il était...
Oui, c'est vrai.
Après sa blessure, il était au Bayern Munich, puis bon, il a signé à Metz, qui est son club formateur. Il a fait un bon match, battu.
Oui. Hein, c'est
il
vrai.
L'autre ailier gauche, celui qui marque, c'est un géorgien, Sitachvili.
Sitachvili, ouais.
Bon
c'est
petit
ça,
joueur, ouais, combatif, guerrier.
Je bien,
voilà.
Moi,
Thiago Thiain, qu'on connaît, qui a une belle patte gauche. Et puis, par contre, des naïvetés en défense, des ballons perdus, des erreurs. C'est une équipe de tu sais pourquoi le va aller à
finalement, tu parlais, Patrick, pardonne-moi, de contre, mais finalement, Metz a joué au football et il n'a pas fermé le jeu comme on pouvait
essayé,
s'attendre.
Ils ont essayé. Après,
quelque part, l'équipe de Bay a laissé le ballon à nos adversaires.
En seconde mi-temps, tu menais au score, tu leur as laissé le ballon. Le problème, tu marques et deux minutes après, tu prends un but, ils reviennent à 2-1 et tu ne marques le troisième que dans les arrêts de jeu. Hein. Sur une très belle action, d'ailleurs, très belle action de Guiri, une passe décisive à Ahmed Traoré. Mais tu dois pas, parce que moi j'étais en tribune, donc je suis dans mon virage.
Une petite rigolade.
Tout le monde dit on va se prendre un but à la con, un tir contré, une merde, on va se retrouver à perdre des points. Quoi.
On s'enflamme pas, quoi.
Voilà.
Moi, ça t'a permis de voir Traoré, avec un ballon et mettre un but.
Et le problème, c'est que tu dois en marquer. Tu as. 8-10 occasions, tu dois en mettre 5 tranquille et 3-0 à la mi-temps, facile. Mm-hmm.
Mais ce gardien de but de Metz,
il a fait son gros match hein. Mais
au-delà des maladresses de Guiri.
Après, quand tu cadres pas, parce que par exemple, il y a eu un corner, une tête de Balerdi, il fait un super arrêt. Il fait un très bel arrêt sur une frappe de Greenwood en seconde mi-temps qui sort quasiment de la lucarne. C'est des très beaux arrêts. Mais après. Tu es seul devant, tu tires à côté, il ne faut pas tirer à côté. Je ne parle même pas de la première action, où c'est un défenseur de Metz qui veut faire une passe.
C'est vrai.
Aubameyang, il intercepte, il est seul face au goal, il lui fait une passe. Quand il fait pas,
qu'on peut qualifier de match moyen d'Aubameyang sur ce match-là,
si
malheureusement.
Le problème qu'on a, à mon avis, c'est que si tu fais les mêmes erreurs à Lorient samedi,
voilà
qui arrive.
Fait peur.
Tu fais les mêmes trucs qu'à Lorient, tu marques pas les buts et tu défends aussi mal en laissant les mecs dribbler dans ta surface sans qu'il y en ait un qui rentre dedans, qui le tacle. Tu risques de lâcher des points.
Tu es obligé de gagner à Lorient, je veux dire.
Alors, Alain, si tu veux la troisième place, tu es
obligé. Une question qui va vers Patrick également. Alors, quelle défense pour jouer à Lorient, étant donné que Medina sera suspendu? Évidemment, il faudra revenir probablement à une défense à 4. Oui. Nous n'avons plus Guiri, évidemment, qui est en phase d'opération.
À garde,
autant pour moi. Autant pour
Et le jeune anglais,
Riley,
qui s'est blessé
à
Monaco,
qui
n'est pas encore rétabli.
Voilà. Et Medina suspendu.
Voilà.
On se profilerait, évidemment, sur un axe central entre Balerdi et
Pavard.
Et Pavard,
ouais. Mais c'est pas...
Faire descendre d'un cran.
Je dirais que c'est le Titanic, moi.
Voilà.
Qui va jouer latéral, probablement.
Alors, Wea latéral, le problème de Wea... D'abord, c'est qu'il est bouilli, parce que comme il est international américain, il va aux États-Unis jouer des matchs, il revient.
Tous les efforts qu'il donne à notre équipe également.
Il joue tous les matchs depuis janvier.
Tu as raison, Patrick.
Voilà. Donc, il n'est pas... Voilà. Et il commence à fatiguer, et c'est normal. Et tu le vois dans le fait qu'au niveau offensif, où il est excellent en général, il est un peu moins bon parce que il hésite à monter parce qu'il sait qu'il aura du mal à revenir.
C'est compliqué.
Voilà. Tu vas mettre Emerson à gauche parce que tu as personne d'autre.
Ouais, on n'a pas d'autres possibilités.
Donc voilà, et ça te laisse deux centraux d'expérience, mm-hmm. si tu ne veux pas sortir une gamène de la réserve, hein, qui sont Pavard à droite et Balerdi à gauche, sachant que Balerdi est plus à l'aise à droite, parce qu'il est droitier. Bon, alors, évidemment. Et le problème sera comment ta charnière devant, comment tes milieux, ils te protègent ta défense. Mm-hmm. Parce que c'est aussi souvent ça à l'OM, tes milieux protègent mal la défense. Højbjerg est pas bien. Oui. Il était fatigué. J'avais dit la semaine dernière qu'il n'aurait pas dû jouer à Monaco. Parce
Depuis
que...
son élimination de la Coupe du Monde, il y a certains joueurs qui ne sont pas bien.
Oui, oui, il a pris. Et n'oublions pas qu'ils ont éliminé aux prolongations, au tir au but. Donc le mec, il a joué 120 minutes.
Il a pris beaucoup de mental.
Et puis, 31 ans, tu sais que c'est ta dernière en Coupe du Monde, tu te fais éliminer au tir au but.
Et tu sais aussi que tu es sur le départ aussi.
Voilà, et tu sais que tu es probablement sur le départ.
Ouais. Ça semble certain.
Est-ce que le mec, il a une... C'est pas une question de conscience professionnelle. Le mec, il est sérieux, il est compétent, il fait le travail, c'est un mec honnête. Et c'est que dans la tronche, par moment, ben voilà.
Et c'est pas le seul, je pense.
C'est pas le seul. Il y a...
Et on a un ex qui joue à Lorient, qui s'appelle...
Bamba Dieng.
À ce qu'il paraît, il serait en forme, c'est vrai.
Il marque presque à tous les matchs. Et évidemment, alors...
Au souvenir de l'OM.
Par rapport à ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux,
l'OM
ne l'a pas viré. Oh, c'était un jeune qui était arrivé du Sénégal, qui avait fait des bons matchs, qui rentrait, qui était intéressant, mais qui manquait un peu de points, de consistance, d'expérience. L'OM, ça fait quand même 5 ans qu'il est parti. Hein, donc, je veux dire, tu ne l'as pas viré, tu l'as vendu. À Lorient, où il joue... Il a joué à Angers aussi. Bon, ça n'a pas marché à Angers. C'est un garçon qui a 24-25, qui arrive un peu à maturité et fait des bons matchs. Mais c'est sûr qu'il va vouloir prouver. Et donc, ça va être compliqué.
De toute façon, quand c'est loin, il faut prouver.
Voilà. Donc, de toute façon, les mecs, ils sont surmotivés. Stade plein et compagnie.
Il
n'y
a pas de Coupe de France, il n'y a rien. Donc, c'est le match de l'année.
À Lorient, ça va être compliqué parce qu'ils sont 9e. C'est une belle équipe. Ils sont invaincus sur leur terrain depuis le mois de septembre.
Ça, il faut le souligner.
Fin septembre.
Et les conditions climatiques aussi, on ne sait pas.
On ne sait pas, mais enfin, bon.
Parce que ça ne peut pas aider, des fois.
Voilà, ça peut. Mais disons, et le problème, c'est que vu le calendrier qui reste, moi, je crains surtout l'équipe de Lille, qui a un calendrier qui n'est pas facile. Mais notre seul match sur les 5 matchs qui restent, le seul match vraiment compliqué, c'est Lorient. Parce qu'après, on va recevoir Nice et on va recevoir Rennes, mais la dernière journée...
Tout le monde parle du dernier match contre Rennes.
Oui, oui, mais Rennes, quand tu les reçois, le championnat, il sera joué. Donc, voilà. Donc, oui. C'est possible. Donc, je veux dire, c'est pas celui-là, parce que tu vas à Nantes et tu vas au Havre, mais... On te dit, ils se battent pour le maintien, mais à mon avis...
J'entends, mais il faut le voir Havre, les autres confrontations
voilà,
également.
Le Havre sera sûrement déjà sauvé à la 33e journée. Nantes, j'espère qu'à la 32e, ils seront déjà en Ligue 2.
Patrick,
voilà,
donc, je suis d'accord avec toi, mais toutes les équipes qui reçoivent l'Olympique de Marseille, c'est le match de l'année. C'est ça. L'OM, est-ce que la pression, ils vont supporter cette pression
C'est pour ça qu'à mon avis, ils sont allés à Marbella passer la semaine.
Marbella, ça me fait un peu...
Pour serrer les boulons, pour reprendre un peu.
C'est un retiré tout à l'Espagne.
Je ne sais pas du tout ici à Marseille. J'ai la commanderie.
Il faut les mettre.
Moi, justement, je pense qu'il y a des intérêts à aller à Marbella pour les vacances.
Il faut sortir de Marseille. Non, pas pour les vacances.
J'explique le pourquoi.
Trouvez-moi des équipes qui vont hors de leur club. Il n'y en a pas beaucoup.
C'est comme une préparation de début de saison. Le soir, tu ne rentres pas à la maison. Voilà. Quand tu es à la commanderie, tu t'entraînes.
Saison, je veux bien, mais en fin de saison, ils se connaissent tous.
Et oui, mais l'entraîneur, il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé. Deuxièmement, je pense qu'il doit sentir, parce que tu es un ancien joueur.
C'est évident.
Il doit sentir que ça tangue, donc il veut resserrer un peu les boulons, faire un stage commando.
C'est plutôt une idée à Benatia, ça. C'est pas une idée à Benatia.
Oui, mais c'est une idée à Benatia parce que Benatia, quand il était à la Juve ou quand il était au Bayern, c'est des trucs qu'il faisait avant les matchs de Coupe d'Europe.
Ah, voilà, donc je savais pas.
Avant les matchs de Ligue des Champions, il faisait pas ça en championnat pour accrocher la troisième place. Mais c'était les Ritiro, le nom, c'était deux Zerbi, il avait dit c'est italien.
Quel besoin ça fait, justement.
Voilà. Et donc,
il
faisait, les liens.
Y compris la Juve, il faisait le Ritiro, il se faisait dans leur centre d'entraînement. Mais ils dormaient là.
Mais ils étaient isolés, ils restaient entre eux.
Voilà. Ce qui fait que le soir, tu te retrouves après manger ensemble, tu parles, tu discutes, tu parles fou, tu tisses un peu des liens. Alors que quand tu es présent normalement, à 17h, l'entraînement il est fini, tu rentres
chacun
à la maison.
Chacun rentre chez soi et retrouve son environnement.
Et le lendemain, tu en retrouves à 10h30. Voilà.
C'est un peu le but de cette retraite.
Le but, il est un peu là.
Hebdomadaire.
Je pense que Benatia et Bey, qui sont bons potes, qui se connaissent bien, ils ont peut-être senti, je ne le reprocherai pas, ils ont peut-être senti que le groupe avait besoin de se resserrer, qu'ils avaient peut-être besoin d'un truc comme ça. Et ça se fait avant le match capital, comme tu as dit. Si tu perds à Lorient, et que Lille vient gagner, parce
après
que nous, on joue à Lorient.
Après, les autres, ils n'ont pas gagné aussi. Hein,
et Lille reçoit Nice.
Et prenons les points et les matchs comme ils arrivent, pas que pour nous.
Voilà, Lille est à un point devant nous, ils reçoivent Nice, qui est à la rue. S'ils battent Nice, ils sont à 4 points. Si tu gagnes à Lorient, tu as un point, tu restes à un point. Parce que Lille, ils doivent quand même aller à Monaco, ils doivent aller au Paris FC aussi, qui en ce moment marche bien, c'est pas fait. Donc, si toi, tu perds à Lorient...
Et tout le monde se titille à une de points, là, parce que même de Monaco à Rennes, pas sûr que Monaco n'accède pas, et je ne veux pas l'espérer, au podium. Eux aussi ils sont dans le coup
parce qu'ils vont pas se louper deux fois à Monaco
parce que
tu
as Lille qui est troisième, nous on est derrière à un point. À un point de nous tu as Lyon.
Il y a Lyon à 51,
à deux points,
et Rennes
à
50.
Deux points, il y a Rennes, et à trois points il y a Monaco,
et Monaco est toujours dans la course.
Donc c'est pas fait. Et donc, tu n'as pas de marge en termes de goal average qui fait que tu pourrais... Donc, ça va être important. Et on va voir comment ça se passe. Mais c'est un match qui va être... Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette préparation spéciale. Parce que ce match, il vaut 6 points.
Parce que si tu perds à Lorient, là, ça craque totalement.
La troisième place, elle est morte. La troisième place, elle est morte. Et on peut même craindre... Tu reçois Nice la journée d'après.
Non, mais Nice, ça devrait aller.
Oui, mais Nice, le stade, le problème. Moi, je me rappelle une match d'Auxerre il y a trois semaines. Une première mi-temps où tu as une grève des encouragements.
Comment va réagir le public?
Tu as un public avec des banderoles hostiles. Ça craint.
Non, mais moi, je pense que contre Nice, vu que c'est un derby,
oui, contre
ça
Nice,
aller.
Tu as raison. C'est un derby.
C'est le match d'après.
Voilà. C'est le match contre Rennes. Et tu en as besoin de ton public.
Alors là,
au stade. Parce que contre Metz ou même contre Auxerre en seconde mi-temps, heureusement qu'il y a le public qui pousse.
Moi, ce que je voyais, c'est que Lille et Lyon, ils étaient en difficulté, ils gagnent.
Et oui,
c'est ça le souci. Et que nous, on est un peu à la ramasse.
Ça, c'est la saison où tout le monde a eu des
creux.
C'est
notre saison.
Et nous, on l'a eu, mais tout le monde. Monaco,
mais...
ils avaient une époque où ils avaient gagné 7 matchs de file. Puis là, ils ont pris 4-1 à Paris FC. Donc, c'est complexe. Et donc, tout le monde a des hauts, des bas.
Pour en revenir aux joueurs, là, Emerson, pourquoi il n'est pas titulaire, Emerson? Il y a un souci avec Bey?
Il va devoir l'être face à Lorient.
Je ne comprends pas. Avec deux Zerbi, il était bien.
Oui, mais...
Je ne comprends pas depuis quelques matchs.
Je pense qu'après, peut-être que Bey, il préfère mettre Medina arrière-gauche.
Oui, mais il n'y est pas, là.
Parce que, oui, d'accord. Mais là, il y sera. À Lorient, il y est. De toute façon, il n'y a personne. Mais il préfère mettre Medina, qui défensivement est plus dur.
Mais qui parle trop.
Voilà. Mais qui parle trop, c'est pour ça qu'il ne sera pas à Lorient. Parce qu'il parle, il chambre, il file.
Et après, le jeune de trop.
Voilà. Et que l'arbitre lui dit deux fois, trois fois, calme-toi. Et il continue et il s'en prend.
En parlant de jeune, l'apéro, il passe bien. On est tranquille avec lui.
Et c'est pas parce
avec modération.
Il est né à côté de Diego Maradona, qu'il a le même comportement.
C'est vrai que Medina, il faudrait qu'il apprenne. Que tu rentres dedans, que tu fasses des fautes quand tu es obligé ou quand tu t'imposes, quand il y a un mec qui met des coups, tu en files une. Voilà.
Non, c'est dans le sang argentin, ça.
Voilà, que tu cherches la bagarre, que... parce que l'arbitre
c'est
le voit. Ce qui s'est passé contre Metz,
c'est la bagarre.
C'est
ouais.
qu'il rentre dedans, il file, il cherche, il chambre.
Il provoque.
Et l'arbitre le voit et elle te dit vous arrêtez une fois, deux fois, la troisième, c'est carton.
Mais pour revenir à Abel, évidemment, il a besoin d'un défenseur gauche ouais, qui ça, soit présent.
Il sera Emerson.
Non, oui. mais ça, Bey, excuse-moi, il devrait lui. En aparté, il devrait lui dire oh, calme-toi, frérot.
Ouais, Emerson mais... et Paxaos se débrouilleront voilà. sur les tâches offensives et défensives
voilà,
pour changer de match-là.
Emerson et Paxaos, c'est vrai qu'ils bossent. Ouais, mais Emerson, il le remettra. Je pense que Bey préfère Medina à gauche parce que défensivement, des fois, Emerson, il monte beaucoup et des fois, il a un peu des oublis.
Je suis d'accord avec cela.
Medina est un stopper de formation, il est un peu plus rude.
Bon, il est évident que là, l'aventure continue avant qu'elle prenne fin. Donc, on est de tout cœur avec l'OM. Patrick Alain, merci pour tout.
Il n'y a pas de quoi, il y a la semaine prochaine.
Oui. Et merci aux auditeurs de Fréquence Mistral Marseille.
Oui, merci. Et on espère vous avoir un peu, même si on a été un peu polémique, intéresser. Parce
c'est le débat au débat, je veux dire.
C'est la vie, voilà.
Merci à tous, au revoir.
Bonne semaine, au revoir.